Ça fait une transition assez, assez violente. On vient de vivre un moment tellement fort. Je me demandais, mais est-ce qu'il faut vraiment emporter la prédication? Alors, c'est important d'aller dans la parole, mais des fois on pourrait aussi ne pas y aller. Alors, je vous propose juste de bouger un petit peu pour faire la transition et... Voilà. Parce qu'on est tous un petit peu... C'est comme si on est tous un peu secoués par ce qu'on vient de vivre. Et le but, c'est juste de s'oxygéner un peu pour pouvoir passer à l'étape suivante. Surtout que mon sujet, il n'est pas facile. C'est ça qui m'embête. J'aurais préféré avoir la prédication de la semaine passée à faire ce matin. Mais j'ai la suite. Je ne veux pas faire deux fois la même. Et aujourd'hui, ça va piquer un petit peu. Alors voilà, le Seigneur s'est approché de nous, mais ce matin, on va prendre des choses pour que nous, on puisse toujours plus s'approcher de lui. À cause de tout ce qu'il a fait et de tout ce qu'on a célébré ce matin. La semaine passée, on avait parlé du texte de cette femme, Marie, la sœur de Marthe, qui a versé du parfum sur Jésus. Elle avait fait un acte d'adoration hors norme en cassant son vase d'albâtre. Il était rempli de parfum qui représentait une année de salaire. Elle l'avait répandu sur la tête de Jésus. Et vous aviez fait le calcul, pour ceux qui étaient là, de qu'est-ce que ça représente une année de salaire, pour pouvoir jauger de la valeur de ce parfum. Alors, je vais vous relire le texte. J'ai pris le texte qui se trouve dans Marc 14, les versets 3 à 9. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase qui contenait un parfum de nard pur très cher. Elle brisa le vase et versa le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent leur indignation entre eux. À quoi bon gaspiller ce parfum? On aurait pu le vendre, plus de 300 pièces d'argent, et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, « Laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action envers moi. En effet, vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous le voulez. Mais vous ne m'aurez pas toujours. » Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance parfumé mon corps pour l'ensevelissement. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera proclamée dans le monde entier, on racontera aussi en souvenir de cette femme ce qu'elle a fait. La semaine passée, nous nous étions focalisés sur Marie. Ici, il est question d'une femme, mais dans l'évangile de Jean, il nous est dit que c'est Marie. Aujourd'hui, je vous propose de regarder du côté des convives. Et comme la semaine passée, je vous avais dit, les hommes, même si c'est une femme, Marie, qui verse du parfum sur Jésus, les hommes pouvaient vraiment vous identifier à cette femme parce que vous aussi, vous pouvez verser du parfum sur Jésus. Et bien, de la même manière, ce matin, les femmes pouvaient tirer des parallèles avec les convives. J'ai pas envie de dire vous identifier parce qu'ils n'ont pas une réaction très positive, mais on est tellement concernés, autant hommes-femmes mélangés, vraiment on peut tirer des parallèles, malheureusement. Alors, ces convives. Eh bien, on ne sait pas très très bien qui étaient ces convives. Dans Marc, il nous est dit « quelques-uns exprimèrent leur indignation entre eux. Quelques-uns. Donc on savait que ça se passait pendant un repas, qu'il y avait du monde, quelques-uns. Mais on peut comprendre qu'il y avait des disciples. Dans Matthieu 26:8, ça nous confirme que c'était les disciples. Et Jean, lui, il va un peu plus précisément et dit, c'est Judas. Judas, celui qui a trahi Jésus. En fait, on peut dire que c'est comme s'il y a trois niveaux. D'une certaine manière, il y a des anonymes. Il se passe un repas, il y a des convives. Apparemment, c'était en l'honneur de Lazare que Jésus avait ressuscité. Il y avait des convives. Dans ces convives, il y a les disciples. Est-ce qu'ils sont tous là? On ne sait pas, mais sûrement. Mais il y a sûrement des invités supplémentaires. Donc, il y a des anonymes. Il y a des serviteurs du Seigneur. Et il y a une personne spécifique. Et pour nous, selon les lieux où on se trouve, on peut être anonyme, mais on peut avoir un rôle spécifique ou on peut être la personne clé. Par exemple, dans l'Église, il y a des personnes qui sont responsables de certains départements. Et il y en a d'autres qui font partie de l'Assemblée. Au travail, ceux qui font partie de l'Assemblée, peut-être qu'ils ont un poste clé. Donc selon où on se trouve, que ce soit dans la famille, au travail, dans des loisirs, à l'Église, on peut tous se situer plus ou moins vers les anonymes, les disciples, ou bien vers Judas. Ainsi, tout le monde est bien installé, sur des tapis, sur des coussins, étendus sur le côté, avec des tables basses, où les repas sont installés, tout le monde mange. Et tout à coup, il y a Marie qui arrive avec son parfum, qui enjambe les gens, qui arrive comme elle peut jusqu'à Jésus, qui casse son vase et qui verse ce parfum. Et au verset 4, « Quelques-uns exprimèrent leur indignation entre eux. À quoi bon gaspiller ce parfum ? Mais qu'est-ce qu'elle fait Marie ? Mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire ? Mais qu'est-ce qu'elle est en train de dilapider ? Mais à quoi bon ? À quoi bon gaspiller ce parfum ? » Dans le texte original en grec, ce « à quoi bon » c'est un tout petit mot, mais ça pourrait être traduit par « pourquoi » ou « pour quoi ». En vue de quoi? En vue de quoi gaspiller ce parfum? Pour quel objectif? Une année de salaire? Une année de salaire que je verse, que je renverse? En quoi? Mais pourquoi? C'est quoi la motivation? Parce qu'il y a certainement une motivation de faire un acte pareil. Et on l'a vu la semaine passée, c'est parce que Marie, elle aimait Jésus. Elle a fait un acte d'adoration. Elle a fait un acte d'amour. Mais la question à se poser, c'est est-ce que la réaction des disciples ou des convives, est-ce qu'elle est vraiment en lien avec la motivation de Marie ? Il s'est passé quelque chose qui a mis les disciples face à leur propre état de cœur, face à leur propre motivation, dans le fait de suivre Jésus. Pourquoi est-ce que ces disciples suivaient Jésus ? Il y a des disciples qui aimaient Jésus. On sait que Jean, par exemple, Jean, c'est le disciple qui aimait Jésus, qui était appuyé contre sa poitrine pendant un repas. C'était peut-être ce repas-là. Ou à Pierre, prêt à sacrifier sa vie pour lui. Même si à un moment donné, il a flanché. Pierre, il aimait Jésus. Mais il y avait aussi Thomas. Thomas qui avait encore de la difficulté à croire. Et puis il y avait Judas qui cherchait son propre intérêt. L'acte de Marie, ça a fait un effet de miroir pour les disciples, parce que ça a révélé l'état de leur cœur. Alors comprenez bien, je ne veux pas critiquer les disciples, je ne veux pas m'attaquer aux disciples. C'est des personnes qui ont sacrifié leur vie pour qu'on soit ici aujourd'hui. C'est des personnes, tous les disciples ont été persécutés, ont perdu leur vie pour l'Évangile. Et c'est pour ça que l'Évangile est arrivé jusqu'à nous. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est que c'était des hommes dans le sens être humain. Ils étaient faits de la même pâte que nous. Donc s'ils ont eu ces réactions, ces choses qui se passent et qui bouillonnent dans le cœur, c'est que dans le nôtre, il y a les mêmes réactions. Et il est bon lorsque nous sommes irrités, choqués, frappés, embêtés par quelque chose, d'aller regarder en nous-mêmes. En quoi cela est-ce que ça me touche ? En quoi est-ce que cela, ça me concerne réellement ? À quoi bon gaspiller ce parfum ? On aurait pu le vendre plus de 300 pièces d'argent et les donner aux pauvres. On aurait pu le vendre. Alors, certains, comme Jean dans son évangile, dit que c'est spécifiquement Judas qui a dit ça, parce qu'il était voleur. Ok, mais peut-être qu'il y avait aussi plusieurs disciples qui avaient un petit peu ce même raisonnement. En tout cas, là, ils sont plusieurs, ils parlent, ils s'indignent entre eux. Mais si on se pose la question, ce parfum, il appartenait à qui? Alors, sûrement à Marie, peut-être même pas, hein, peut-être qu'elle l'a demandé à quelqu'un d'autre, on ne sait pas, mais apparemment, en tout cas, il n'appartenait pas aux disciples. Donc déjà là, il y a un truc qui est un petit peu bizarre. Donc on ne sait pas d'où elle avait ce parfum, Marie. Mais apparemment, c'était davantage le sien que celui des disciples. Donc de toute façon, le prix de ce parfum, si elle l'avait vendu, il ne serait sûrement pas arrivé aux disciples. Peut-être pas aux pauvres. Si elle n'avait pas voulu vendre son parfum, ben elle l'aurait gardé pour une utilisation ultérieure. Donc là, il y a vraiment un raisonnement un peu bizarre chez les disciples. On aurait pu le vendre. Mais par ricochet, vu que Judas était voleur, la compréhension, c'est que Judas, il aurait dit, ben en fait, si on le vend aux pauvres, enfin non, la suite, il l'aurait pas dit, mais pensez très fort, c'est que tout cet argent, une année de salaire quand même, on va mettre tout ça dans la bourse qui sert au ministère de Jésus et qui sert aussi à faire l'aumône aux pauvres. Et cette bourse, ben, c'est lui qui la tenait. Donc il aurait pu puiser dedans, ni vu ni connu. Voilà tout le raisonnement. Alors peut-être. Peut-être bien que c'est ça. Sûrement que pour Judas, c'était ça. Est-ce que cette réaction des convives, ça reflète réellement un problème de rapport à l'argent? Eh bien oui, certainement. Parce que peut-être qu'ils n'ont pas réussi de faire de l'argent leur serviteur. Et puis nous, c'est souvent le cas. C'est plutôt nous qui sommes au service de l'argent. Parce que l'amour de l'argent est une puissance qui est très difficile de combattre, parce que ça touche, entre autres, à nos besoins primaires, mais aussi à un minimum de confort. Et ici, en Suisse particulièrement, le confort, c'est quelque chose. Donc c'est certain, il y a eu une réaction qui avait à voir avec l'argent. Mais pas seulement. Mais pas seulement. Il y a autre chose. Et c'est là que ça pique. Jalousie. Insécurité. Marie, elle a fait un acte d'amour incroyable, et eux, les disciples, ils n'ont pas su en faire autant. Alors il y a quelque chose qui en eux était insupportable. Ce parfum ne leur appartenait pas. Donc oui, peut-être que leur réaction avait à voir avec l'argent, ou l'aspect matériel, mais ça avait vraiment bien plus à voir avec leur cœur. Imaginez cette femme à l'époque, c'était une sous-catégorie, une femme. Et voilà qu'elle dépasse les disciples. Les convives, elle les dépasse dans sa compréhension des choses de Dieu, dans sa consécration, dans la concrétisation de son amour pour Jésus. Elle les dépasse. Elle réussit à exprimer son amour d'une manière que eux n'ont pas su faire. Et les disciples, ils n'ont pas su faire pareil, pourtant ils côtoyaient Jésus autant qu'elle, si ce n'est plus. Cette femme les a tous mis KO, elle les a mis au tapis. Et parfois, nous, on peut ressentir la même chose. On ressent la même chose que ses convives, que ses disciples. Par exemple, quand un plus jeune que nous se lève et qui manifeste des dons qui dépassent les nôtres. Quand un ministère se lève puis qui dépasse le nôtre. Quand quelqu'un qui avait moins d'expérience et puis qui porte plus de fruits. Ou un plus jeune dans la foi qui commence à avoir une intimité dans la prière bien plus grande que la nôtre. Et ça nous... Ah ! J'en suis où, moi ? J'en suis où ? Et ça nous fait des trucs. Et après, selon où on en est, on va réagir d'une manière ou d'une autre. Alors des fois, on est comme les disciples, on s'indigne. On s'insurge contre un projet, contre une mission, contre une décision. « Vaudrait mieux faire comme ci, comme ça, comme ça. » On trouve des choses à dire. Mais ce qui serait bien, c'est de se poser la question, mais qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Qu'est-ce qu'il y a sous ma réaction? Est-ce que c'est l'amour de l'argent qui est caché quelque part? Est-ce que c'est de la jalousie? C'est quoi? Est-ce que c'est une insécurité, puis j'ai besoin de montrer que je suis là, que j'existe? C'est quoi? Pourquoi? Ou est-ce que le Saint-Esprit est simplement en train de me dire, cette chose-là dans ton cœur, j'aimerais bien la toucher, j'aimerais bien te faire aller plus loin. Ça va te briser un peu, ça va te frotter un peu, ça va piquer un peu. Mais si tu viens vers moi avec cette chose-là, on va pouvoir la régler ensemble, et tu vas pouvoir te relever et grandir et maturer. C'est souvent comme ça. C'est souvent dans le brisement que le Seigneur nous fait grandir. Souvent, le Saint-Esprit veut nous montrer ce qui nous empêche de casser notre vase d'albâtre. Alors, la réponse de Jésus. Donc, on voit que les disciples n'arrivaient pas à gérer leur mal-être devant l'acte de Marie. Et comme l'union fait la force, eh bien, ils se mettent ensemble pour essayer de trouver des solutions, trouver un coupable, et puis s'indigner. Non, mais t'as vu ça, et puis quand même, et puis c'est scandaleux, et nanana, nanana. Suffisamment pour que ça arrive aux oreilles de Marie et que ça la blesse, à tel point que Jésus intervient. Depuis le verset 6, « Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action envers moi. En effet, vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous le voulez. Mais vous ne m'aurez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu, elle a d'avance parfumé mon corps pour l'ensevelissement. Durant tout le ministère terrestre de Jésus, il a été confronté à l'opposition des chefs religieux, les pharisiens, les scribes, les sadducéens. Ces pharisiens, enfin ces juifs religieux, ils ne supportaient pas Jésus. Ils le voyaient faire des signes, faire des miracles, faire des guérisons, chasser des démons, transformer l'eau en vin, marcher sur l'eau, multiplier du pain, multiplier des poissons, deux fois. Et pourtant, ils voulaient le faire mourir. Pourquoi? On a une réponse dans Jean 5, les versets 16 à 18. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus et cherchaient à le faire mourir, parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Cependant, Jésus leur répondit, « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, moi aussi je suis à l'œuvre. » Voilà pourquoi les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, parce que non seulement il violait le sabbat, mais il appelait aussi Dieu, son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus se faisait égal à Dieu. Marie a versé du parfum sur Jésus parce qu'elle l'a reconnu comme étant plus grand que tout homme, comme étant plus grand que n'importe qui, comme étant tout suffisant, comme dépassant tous ses besoins, même ceux d'une année de salaire. Mais certains convives, à l'image des Juifs religieux, n'ont pas compris qui était Jésus. Le problème dans leur cœur ne touche pas seulement au manque d'amour, à l'amour de l'argent, la jalousie, la recherche de son propre intérêt, mais il touche à la personne de Jésus. Ils ne comprennent pas qui est Jésus, et de ce fait, ils n'adaptent pas leur comportement. Ils voient Jésus d'une manière charnelle, d'une manière terrestre. Pour nous, aujourd'hui, ce serait comprendre Jésus d'une manière cérébrale, d'une manière intellectuelle, d'une manière rationnelle, sans que ça transforme notre vie, sans que ça transforme notre caractère, nos réactions, nos comportements, nos décisions. Les convives ne comprennent pas qui est Jésus dans sa divinité. Et au verset 7 de Marc 14, Jésus dit, « En effet, vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous le voulez, mais vous ne m'aurez pas toujours. » Dans le texte grec, c'est « mais moi ». vous ne mourrez pas toujours. Jésus met l'emphase, il met le poids, il met l'importance sur « mais moi, vous ne mourrez pas toujours. » Parce qu'il est en train de dire « moi, je suis plus important. Aujourd'hui, ici et maintenant, je suis plus important. Vos circonstances, elles seront toujours les mêmes, sauf que moi, à un moment donné, je ne serai pas là. Moi, je ne suis pas qui que ce soit. Moi, je suis Dieu. » Et Marie, elle a compris cette chose-là. Ce n'est pas seulement l'acte de Marie qui est important. Mais il nous apprend qui est Jésus, qui est-ce qu'on sert, devant qui nous nous tenons et à qui nous devons rendre des comptes. Et devant tout le monde, Jésus donne raison à Marie, au point qu'il prophétise sur elle, puis qu'il dit que partout dans le monde où l'évangile sera prêché, on parlera de cette femme et de ce qu'elle a fait, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Cette prophétie, elle s'accomplit à chaque fois que quelqu'un parle de cette histoire. Cette prophétie, elle s'accomplit. C'est quand même énorme. Les disciples, ils ont choisi la voie la plus rapide, celle de critiquer, de juger, de condamner celle qui pourtant avait choisi la bonne part. Et ça nous arrive à tous, d'être parfois indignés par le choix d'une personne, ou par son comportement, sa demande, son acte, son extravagance. Et quand c'est le cas, il est bon de se poser les bonnes questions avant de réagir. Qu'est-ce qui me pousse à réagir ainsi? Quelle est raison ou quel est tort? Quelque part, ça c'est égal. C'est égal, c'est vraiment... moi, est-ce que j'ai le même problème? Est-ce que tout à coup je suis face à un effet miroir? Marie a choisi la bonne part de se mettre aux pieds de Jésus pour l'écouter, apprendre de lui. Elle a aussi choisi la bonne part de répandre son amour pour Jésus en faisant fi de tout protocole et de tout calcul. C'est un encouragement pour nous à faire pareil, apprendre à aimer Jésus. Apprendre à aimer Jésus dans nos relations, les uns avec les autres, dans nos choix, dans notre gestion du temps, dans notre gestion de l'argent, dans nos relations, dans tout ce que nous sommes. Que nous soyons tous dans l'exercice de la recherche de l'intérêt de Jésus et de son royaume dans tout ce que nous vivons. C'est le travail de toute une vie. Et on est tous à la même. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci Père d'avoir façonné le cœur de Marie qui nous donne un enseignement tellement important. Merci Jésus d'avoir accueilli le geste de Marie. Tu t'es laissé faire quand elle a mis ce parfum sur toi. Toi non plus, t'as pas eu peur du « qu'en dira-t-on ?» Tu as tellement bien géré ça. Tu t'es pas enorgueilli, tu t'es pas défendu, tu as juste accueilli un acte d'amour. Merci Jésus parce que tu as compris ce qui se passait dans le cœur des disciples et tu les as repris sans faire mal, avec intelligence, avec sagesse, avec puissance. Et merci Saint-Esprit parce que tu nous parles aujourd'hui. Tu parles à notre cœur et tu nous montres les choses que on doit encore travailler, les choses auxquelles faire attention, les choses que tu veux toucher dans nos vies, dans nos cœurs, pour qu'on puisse aimer à notre tour. Seigneur, tu nous connais chacun d'entre nous. Tu sais les domaines pour chacun de nous qui sont délicats, là où on a de la jalousie, là où on a de l'insécurité, là où on n'est encore pas assez détaché de l'argent, là où on met des priorités aux faux endroits. Tu sais toutes choses, pour chacun c'est différent. Mais tu sais, Seigneur, tu sais très bien l'état de notre cœur. Et je te demande de venir à notre secours. Je te demande, Saint-Esprit, de nous aider, de nous montrer à chacun quel est le chemin. Qu'est-ce que tu veux travailler en nous? De quelle manière est-ce que tu veux nous faire grandir? De quelle manière est-ce que tu veux nous faire maturer? Montre-nous, Seigneur. Et merci pour tes compassions, parce que parce que tu nous encourages. Parce que quand tu nous corriges, c'est toujours avec amour, c'est avec douceur. Et c'est toujours pour notre bien. C'est toujours pour nous bénir. C'est toujours pour qu'on puisse te connaître toujours plus, être rempli de ton amour, t'aimer, aimer les autres, être de plus en plus libre en toi. On en a tellement tous besoin, Seigneur. On a tellement tous besoin d'être libre en toi, de pouvoir aimer sans crainte, sans avoir peur de se faire manger, sans avoir peur d'être envahi. On a tous besoin d'aimer dans la liberté, dans l'assurance des enfants de Dieu. Fais-nous marcher sur cette voie-là, Seigneur. Merci. Merci Jésus. Merci Père. Merci Saint-Esprit. Amen.